Bonsoir. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante en dépit des initiatives diplomatiques de paix en cours. Cette persistance de la violence est vivement déplorée par la société civile des provinces touchées. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent, semant le doute quant à l'efficacité des pourparlers de paix, alors que les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité des violations du cessez-le-feu, la réalité du terrain est sans appel. Comme l'a récemment déclaré Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, la paix en RDC demeure en grande partie une promesse. Il y a des écarts entre le progrès constaté sur papier et la réalité sur le terrain qui continue d'être marqué par la violence. Fin de citation. Plus de 6 mois après la chute de Goma et Bukavu, quelle lecture faire des mécanismes mis en place pour le retour de la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 2 octobre 2025. Participe au débat Johnson Ishara. Il est coordonnateur de la dynamique Génération Consciente, une organisation citoyenne congolaise œuvrant pour l'engagement citoyen, la paix, la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat et l'éducation. Johnson Ishara, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous mes compatriotes auditeurs qui sont à l'écoute.
Maître Joseph Dounia, avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu, il est membre de la société civile congolaise et membre de l'ONG Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme, PDH en sigle, basé à Goma au Nord Kivu. Maître Joseph Dounia, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Nkoutché, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Timothée Tchaombo-Soutcha, spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique. C'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Timothée Tchaombo-Soutcha, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Nkoutché, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC reste un défi majeur malgré les multiples initiatives diplomatiques visant à instaurer la paix. La société civile des zones affectées exprime son profond désarroi face à cette situation et note Katumbi nous en dit plus.
La violence dans l'est de la RDC, qui touche les provinces du Nord et du Sud Kivu, ne cesse de s'intensifier. Alors que les pourparlers de paix sont en cours, l'impact des discussions semble limité sur le terrain. Les communautés locales, épuisées par les conflits, dénoncent l'inefficacité des solutions proposées. Les affrontements continuent entre différents groupes armés et les violations du cessez-le-feu se multiplient. Chaque camp se rejette la responsabilité des violations, laissant la population dans un état de doute et d'incertitude. Les sociétés civiles des régions concernées expriment une frustration croissante face à cette situation qui semble stagner. Elles appellent à une véritable action sur terrain, soulignant le fossé entre les accords diplomatiques et la réalité du terrain. Ces organisations plaident pour une prise en charge plus sérieuse des préoccupations humanitaires et pour une véritable pression internationale sur les belligérants afin qu'ils respectent les engagements pris. L'inaction apparente alimente les sentiments d'abandon et d'impuissance des communautés locales. Dans une récente déclaration, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a reconnu que la paix en République démocratique du Congo reste en grande partie une promesse. Elle a souligné l'écart entre les avancées documentées sur papier et la réalité de la violence qui sévit encore. Ses propos résonnent comme un cri d'alarme face à l'impasse des négociations actuelles et l'incapacité à en finir avec les violences qui dévastent les populations civiles.
Merci Enoch Kiatumbi Johnson Ishara. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Génération Consciente. C'est une organisation citoyenne congolaise, bien sûr, qui œuvre pour l'engagement citoyen, la paix, la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat et l'éducation. Quelle est, selon vous, la principale raison qui explique ce fossé entre les progrès diplomatiques annoncée et la réalité persistante de la violence que vous observez, vous, société civile, sur les terrains, dans la partie est de la RDC.
Oui, merci beaucoup, Madame Kelly, pour cette question. Je réitère également mes vives salutations à tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre, également particulièrement surtout la population de l'Est, encore plus de la ville de Bukavu, la ville de Goma, Kirumba, Calais et tous les territoires aujourd'hui affectés. Voilà, savoir c'est quoi vraiment la cause. Je pense que la cause serait que nous sommes partis déjà de vérités qui nous ont tous menti. De vérités qui nous ont menti dans cette guerre, parce que depuis qu'elle a commencé, il n'y a aucune vérité qui dure 3 mois. Chaque vérité s'expire. Et du coup, on se pose la question, quelle serait la vraie raison de cette guerre? Parce que pour nous, qui intervenons dans le peace building, c'est-à-dire quand on veut vraiment résoudre un problème, il faut d'abord bien savoir la cause. La cause, madame, je vous rappelle que l'état de siège qui était décrété au Nord Kivu et à l'Ituri, c'était décrété avant que le 1-23 ne fasse son incursion à Bunagana. Et la raison de l'état de siège, c'était pour stabiliser sécuritairement la partie nord de la province du Nord Kivu, et que c'était pendant cette même période qu'on a vécu l'avancée spectaculaire de 1-23. Quelle ironie du sort, quelle défaillance opérationnelle. Parce qu'en réalité, dans un état de siège, ça veut dire que ce sont les militaires qui imposent l'ordre public. On avait l'impression, mais non, avec cette première vérité qui nous ont menti dès le départ, que ce sont les militaires qui ont créé, un désordre public. Ce désordre s'est fait observer par les déplacements massifs de population, ce qui a fait à ce que, je réitère le discours que le porte-parole du gouvernement a tenu, a rappelé à la nation qu'aujourd'hui le Congo vit une période où on a plus de 7 millions de Congolais en errance. Madame Kelly, ça veut dire que nous avons des compatriotes qui ne savent pas où vivre, comment manger, comment dormir. Et 7 millions de Congolais, c'est un nombre plus grand, plus que toute la population du Gabon, Madame Kelly. Parce que la population du Gabon ne dépasse pas 2 500 000 habitants. Maintenant, quand vous avez un peuple, une population, 7 millions, c'est un homme. Cette première vérité sur l'état des cieux, ça nous a menti et ça affaiblit l'activisme au Nord Kivu. Rappelons que le Nord Kivu, c'est l'est du pays. Comme le disait le philosophe, le plus grand philosophe que le Congo n'ait jamais connu, selon moi, le Godefroy Kamana, c'est l'est du pays. Et l'est, c'est là le 4 points cardinaux qu'on apprend aux enfants, c'est l'est où le soleil s'élève. Mais quand on étouffe déjà là où le soleil s'élève, quel sera le sort de l'ouest? L'est est tombé maintenant dans ces flous sécuritaires avec toutes ces premières vérités qui nous ont menti. La deuxième vérité qui nous a menti, et c'est pour moi, c'est par là qu'on devrait partir si on veut bien comprendre ce qui se passe, c'est le président de la République qui veut briser les mythes, le mythe sur les stéréotypes, sur le préjugé des coopérations de pays de la région des Grands Lacs. Et en brisant le mythe, le président de la République déclare que le président rwandais, c'est son frère et il est prêt à faire la paix. Ils se sont rencontrés à Goma, ils se sont rencontrés à Kinshasa, et le jour-là, toute l'IDPS a crié, c'est fini, enfin il est arrivé à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils se sont dit au-delà du micro? Est-ce que les Congolais sont au courant? Non, on ne sait pas. Mais on a crié que voilà, c'est tout, on va y aller. Et cette vérité nous a menti jusqu'à ce que les autres, certains commencent à se promettre de se rencontrer qu'au ciel. Et malheureusement, ils se sont rencontrés avant que le ciel n'arrive. La troisième vérité qui nous a menti dans cette histoire, c'est maintenant quand la République démocratique du Congo accepte, Madame Kelly, d'adhérer dans l'EAC. L'EAC que nous avons dénoncé dès le départ, dans une région déjà similitarisée. Similitarisée, ça veut dire, il y a déjà les casquets bleus de plusieurs pays, et des pays en grande partie qui étaient des pays désertiques, qui opèrent dans une zone équatoriale dont on a plus de forêts, c'est-à-dire dans une jungle. Déjà que maintenir la paix, ça a été un problème. Dans cette même région, on avait des résistants. Dans cette même région, dans cette même zone, on avait les FARDC. Dans cette même zone, on avait des mercenaires. Comment on va encore adhérer dans les AC qui vont intervenir militairement? Et comme conséquence, vous avez vu ce qui s'était passé à Bujumbura, où le président de la République s'adresse à un général de l'EAC qui était d'origine kényane en lui disant « Je pense que vous n'êtes pas en train de nous trahir ». C'est le président de la République. Qu'est-ce qui serait caché derrière notre adhésion? Et du coup, la population a demandé le départ de l'EAC. Et du coup, on a découvert que même dans cette mission de l'EAC qui était à Goma, il y avait même des officiers du Rwanda qui occupaient des postes stratégiques dans cette même mission. Cette vérité nous a menti et ça nous a mis maintenant dans une situation ingérable. Beaucoup se sont lancés sur plusieurs fronts, des fronts improductifs. La quatrième vérité qui nous a menti et qui continue à nous mentir, c'est maintenant quand on nous dit « Le chef de l'État tient un discours demandant au peuple de s'élever, le pays est attaqué et les gens se sont levés ». Nous avons encore alerté le monde entier, nous avons dit « Oui, nous sommes prêts ». Chaque peuple, quand il est attaqué, il doit s'élever. Mouzé l'a dit, réveillez-vous là où vous êtes. Mais il avait bien, il avait expliqué les mesures d'accompagnement de sa communication. Mais nous avons vécu une situation où le président de la République appelle à la résistance. C'est-à-dire chacun qui cachait sa machette, chacun qui cachait son arme, chacun récupérait son arme. Et ils se sont constitués à Ouazalendou. Quelles mesures d'accompagnement? C'est devenu maintenant une bombe à retardement dans la région. Et quand déjà, je veux bien que le politique puisse crier « Oh, Ouazalendou, Ouazalendou », mais en tant qu'État, je vais rester dans la compréhension de l'État. En tant qu'État, quand on fait recours déjà à ce qu'on appelle Ouazalendou, qui est une bande déjà que vous ne gérez pas, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a une faillite de la défense de la nation. Cette vérité nous a menti parce que même ce qui se passe, on a senti, il fallait seulement suivre ce qui s'est passé à Uvira avec les Ouazalendou qui disent A, les FARDC qui disent B. Au-delà de ça, quand vous allez dans le Grand Nord, à partir de Kirumba à monter, les Ouazalendou disent A, les FARDC disent B. Les quatre vérités, et il y en a beaucoup d'autres qui nous ont menti et qui nous ont maintenant plongé dans une situation où on ne sait pas comment s'en sortir. Et moi, j'estime, dans ce qui se passe à l'Est, il faudrait qu'on mette d'abord nos deux pieds sur terre, qu'on se pose des bonnes questions, parce que nous avons l'impression que nous allons sur des chemins sur lesquels nous ne devrions pas emprunter. Et pourtant, Madame Kelly, dans la gestion de projet, il est bien dit, il est souhaitable de trouver des mauvaises solutions à des vrais problèmes. Il est plus dangereux de penser avoir trouvé des bonnes solutions à des faux problèmes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Et j'ai l'impression que c'est dans cette situation que nous sommes en train de naviguer et nos compatriotes souffrent sérieusement.
Justement, en parlant des compatriotes, plus de 6 mois après la chute de Goma et Bukavu, on va prendre les chefs-lieux parce que ce sont les grandes villes. Quelles sont les attentes concrètes et immédiates de la population aujourd'hui dans ces deux villes?
Alors, les deux villes qui parlent généralement Swahili, Je vais dire ça en swahili et puis je dis ça en français.
En français d'abord et puis vous allez peut-être traduire en swahili.
Voilà, en français, c'est que ceux qui vivent à Goma et ceux qui vivent à Bukavu ont l'habitude de dire le FARDC, la police qui était là, c'est vrai, elle pouvait avoir de défauts et des qualités, mais c'était notre police, c'était notre armée, nous le voulons bien. Et en swahili, ça se dit souvent nikibaya me nikietu. Ça veut dire on doit voir que l'ordre public, les institutions légalement établies arrivent à contrôler tout le territoire. Parce que tout ce mascarade auquel on est en train d'assister déjà, vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez quitter Goma. Vous avez un document qui vous permet de quitter Goma. Mais si vous voulez prendre un avion, comme l'aéroport de Goma ne fonctionne pas, vous devez prendre l'avion à Kampala. Arrivé à Kampala avec le même document, vous êtes débarqué. Vous devez recevoir le deuxième document au niveau de l'ambassade à Kampala. Et au même moment, aujourd'hui encore...
Nous avons appris que l'AFSAM-23
oui,
aussi...
Et ça s'appelle maintenant la réciprocité. On a l'impression qu'on a maintenant des États qui se bagarrent. On n'est pas dans une situation de des États. C'est qu'on est en train de vouloir créer une zone non-État dans l'Est du pays. Et il faut vite... Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va gérer la situation du Kivu. Il faut plutôt agir. Bon, maintenant... Au-delà même de ce qui est des déplacements, il y a beaucoup de Congolais qui sont débarqués comme ça, qui n'ont pas d'hôtel, qui ne savent pas. Ils avaient que leur billet et quand on les débarque, ils doivent encore mener des courses. Ils deviennent comme des personnes sans abri tout simplement parce que nous n'arrivons pas à gérer avec sérénité cette situation. Quel est le sort aujourd'hui? Certains établissements supérieurs, dont on a dit ne demandez plus l'ordre à Kinshasa. Vous devez commencer, et ils ont mis en place une cellule qui gère l'enseignement supérieur à Goma. Quel sera le sort et la qualité des diplômes de ces étudiants-là? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre à l'embo dans cette situation, parce que tout simplement, nous avons décidé à fermer les oreilles pour des questions qui demandent notre attention particulière. Et notre attention particulière, c'est que Goma, Bukavu, que ce soit le Grand Nord, que ce soit Uvira aujourd'hui qui est en débandade, je pense qu'il fallait des mesures urgentes et un plan de contingence plus clair.
Alors, on va revenir sur les mesures urgentes. Johnson Ishara, le temps pour nous de donner d'abord la parole à Maître Joseph Dunia, qui est avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu. Il est membre de la société civile congolaise, membre de l'ONG Promotion de la démocratie et protection de droits de l'homme, PDH en sigle, basé à Goma, au Nord Kivu. Maître Joseph Dunia, comment vous expliquez ce phénomène? On a des initiatives diplomatiques pour le retour de la paix dans cette partie du pays, mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent d'une part entre l'AFCM 23 et les Wazalendo, d'autre part entre l'AFCM 23 et les FRDC. Comment vous expliquez cela?
Oui, merci madame la journaliste. J'explique le fait de ce décalage entre la réalité sur le terrain et les déclarations sur papier, du fait que les initiatives ont été prises à Doha et à Washington, loin des réalités sur le terrain, et sans avoir beaucoup impliqué les acteurs concernés. Du moment que les partis ont accepté de se reconnaître en tant que tels comme partis au conflit ou comme partie belligérante, ce qu'il y avait à suivre, c'était que les partis se mettent d'accord sur des mécanismes de mise en œuvre de cesser les faits. Mais lorsque vous voyez les agendas tels que c'était proposé par Washington et par Doha, nous avons l'impression que c'était des agendas proposés par les médiateurs, sans que les partis, les AFCM 23 et le gouvernement se soient mis d'accord sur le contenu de la médiation. Parce que, apparemment, les États-Unis avaient besoin que les partis fassent des business et des minerais ensemble. Et pourtant, l'urgence pour le peuple congolais, c'est d'aboutir à un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu soit appliqué par des mécanismes convenus et qui est des observateurs ou des institutions qui sont chargées d'assurer le suivi d'application, notamment surveiller que ce cessez-le-feu est appliqué et respecté, et quelles sont les mesures qui peuvent être prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas le cessez-le-feu. Et la deuxième défaillance, c'était qu'il y a un faible engagement des deux parties, c'est-à-dire qu'apparemment le gouvernement néglige l'AFCM 23, apparemment l'AFCM 23 est déterminé à combattre et à démontrer sa force face au FRDC et au Wazalendo. Et donc on se retrouve pris dans une diplomatie qui visiblement est une diplomatie de guerre. Le gouvernement congolais apparemment mène des efforts pour obtenir des soutiens, des appuis militaires, au lieu de faire des efforts de libérer le peuple ou de trouver des solutions de paix pour que la population qui est à l'est du Congo puisse trouver la paix et vivre sérénement. Et éventuellement, le FCM 23 ne fait que recruter. Vous avez entendu que ils ont terminé la formation, je sais pas, de 7 000 unités. Donc, ça vous démontre que la diplomatie actuelle, les déclarations actuelles, ce sont des déclarations de guerre, ce ne sont pas des déclarations de paix. Et moi, j'explique cela par le fait que, en signant la déclaration des principes de Washington et de Doha, il était urgent que l'AFCM 23 et le gouvernement, la société civile et l'opposition non armée se mettent d'accord pour définir la suite du processus de paix, définissent les mécanismes de mise en œuvre actuellement des observateurs, des institutions qui sont chargées. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la mission des Nations Unies, la MONUSCO, sa mission est dépassée. Cette mission est devenue comme une mission permanente, une mission qui n'assure plus l'observation, une mission qui ne peut plus aider à résoudre les conflits congolais pour aboutir à la paix. Et d'ailleurs, la guerre a été déclenchée en présence de cette mission, en présence de plusieurs autres missions, dont l'objet n'est pas toujours clair. Et comme a dit le prédécesseur, on ne sait pas si l'EAC est venu pour la paix, est-ce que pour renforcer les uns ou les autres. Et c'est ça, c'est qu'on peut expliquer par le fait qu'il n'y a pas d'engagement qui contraint toutes les parties à ces conflits à respecter telles obligations.
Est-ce que vous voulez dire par là que, qu'on ne sent pas l'impact réel de toutes ces initiatives diplomatiques, initiatives de paix pour le retour de la paix dans cette partie du pays qui subit ou qui est sous occupation de la FCM 23?
Oui, tout en respectant l'initiative du président américain Donald Trump et les efforts menés par le Qatar, mais j'ai comme impression que ces efforts ne suffisaient pas. Ces efforts ne sont pas adaptés parce que lorsqu'on a entendu les Américains, ils ont voulu mettre les Rwanda et le Congo à travailler ensemble sur la question des minerais. Et, or, nous avons toujours proposé qu'il y ait des mécanismes sur les minerais, les mécanismes nationaux, les mécanismes régionaux et les mécanismes internationaux sur la question minière de la RDC. Et vous voyez qu'il y a toujours une contradiction. Par exemple, l'Union européenne conclut des accords avec le Rwanda et entre-temps impose des sanctions à tous ceux qui sont intéressés aux minerais congolais. Ça devient une contradiction. Les États-Unis proposent une collaboration sur la question des minerais avec le Rwanda et éventuellement des pays de la région avec les États-Unis. Au lieu de favoriser, par exemple, le commerce libéralisé des minerais, qui est une cause non négligeable du conflit impliquant la RDC avec les autres pays, parce que tout le monde pouvait se retrouver sur l'intérêt des minerais, mais il est possible de trouver des solutions avec les États de la région sur la question des minerais. Et nous avons toujours proposé qu'il y ait un plan Marshall de reconstruction de la RDC en contrepartie du commerce libéralisé des minerais. Tous ces mécanismes proposés par l'Union européenne, les États-Unis, des directives et des sanctions contre les opérateurs miniers sur les minerais du Congo. Il s'agit d'une façon d'endormir les peuples congolais et nous laisser toujours empêcher l'enrichissement des Congolais parce que la pauvreté, le manque d'emploi favorisent ces groupes armés. Ces groupes armés constituent une bombe à retardement.
Merci.
Et pourtant, il est possible de trouver des solutions comme l'État de Mobutu dans le cas de la CPGL. Il y avait des échanges intégrateurs entre le Rwanda, le Congo, le Zaïre et le Burundi.
Maître Joseph Dounia, on va revenir.
Par exemple, le commerce des cafés, l'électricité, les minerais, et tout cela constitue une solution.
Maître Dounia.
Sans qu'on passe à Doha, à Washington, les gens de la région peuvent trouver des solutions fraternelles, d'étendre l'atmosphère qu'il y a, la méfiance intercommunautaire qu'il y a. Et pourtant, on sait que les peuples du Rwanda, du Burundi et de la région sont intéressés de vivre ensemble, d'échanger ensemble. Et c'est possible sans alourdir par ces mécanismes
américains, par ces directives, des sanctions
sur les minerais. Et pourtant, les minerais doivent constituer
à l'enrichissement
du peuple congolais sans entrave, sans restriction qu'imposent les États-Unis et l'Union européenne.
Maître Dounia, s'il vous plaît.
Nous avons proposé
que ces
directives et sanctions soient levées.
Maître Dounia, c'est un échange. Essayez de me suivre aussi, de me laisser le temps de pouvoir m'exprimer. Je disais, on va parler des solutions dans la deuxième partie de notre émission. Hein. Timothée Tomoussouchov, vous êtes spécialiste en politique internationale, coordonnateur et chercheur indépendant à Calafrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes également médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. internationaux. Alors, d'un point de vue technique, puisque vous êtes expert, quelle critique méthodologique faites-vous des mécanismes des pays actuels, notamment Washington et Doha, manquent-ils d'inclusivité, de garantie d'application ou d'un suivi impartial, comme l'a relevé Maître Joseph Dounia?
Merci madame. Il se pose un problème d'abord sur, j'ai entendu mes co-débatteurs, surtout le dernier qui maître, je crois Dounia, il parlait de minerais, qu'on peut voir comment on peut exploiter de façon conjointe sur le plan régional, le minerai qui appartient à un État souverain et dont on, par des accords, on prévoit que ce soit une exploitation sous-régionale. Connaissez-vous un pays à travers le monde qui se met dans ces dispositions-là où ces minerais sont exploités, ces richesses, ces ressources? Nous avons un pouvoir faible, c'est pour cette raison il y a ces accords et ces impositions. Une règle internationale connue en géopolitique, que c'est les rapports de force qui déterminent les relations entre acteurs sur la scène internationale. Donc c'est pour ça que la RDC est menée comme ça, parce que il a les dirigeants assez faibles. Je reviens sur la question, mais technique. D'abord, je vais vous rappeler, Madame Kelly, que Bounagana était tombé entre le 12 et le 13 juin 2022, par l'appui des services des renseignements de l'état-major général de l'armée ougandaise, qui a cédé au M23 le passage, et donc le M23FC a attaqué l'armée nationale de la RDC sous son dos. Je vais vous rappeler en même temps que l'armée ougandaise est depuis cette date-là aussi alliée de la RDC pour traquer le AF, je crois, ADF Nalu. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Troisièmement, vous savez que nous sommes membres de la EAC, East Africa Community, parce que vous m'avez demandé d'analyser sur la question, sur l'aspect technique, mais le Kenya abrite toutes les grandes réunions du Rwanda, de l'Ouganda, de tous les opposants contre la RDC. Et vous savez que le Kenya était entré le 15 août 2025 de désigner un consul. Par rapport à un pays membre de l'EAC, le Kenya aurait dû poser la question à Kinshasa, ben voilà, j'ai toujours des consuls là-bas, mais maintenant vous êtes en guerre contre votre propre rébellion, est-ce que je peux renvoyer mon ambassadeur, mon consul là-bas, si nos relations étaient bonnes? Mais les relations, le Kenya n'a pas posé la question à Kinshasa, a désigné, même si le Parlement kényan n'a pas avalisé la candidature de ce monsieur, au regard de son parcours, mais le comportement du Kenya approuve que les autorités de l'EFM 23 sont habilitées à donner des grandes décisions, à accorder l'accréditation. Aujourd'hui, au moment où nous échangeons, Kinshasa a pris une décision depuis quelques mois que tout produit, tout individu qui viendrait de l'est du pays, sous territoire occupation de l'AFCM 23, doit, si c'est un produit, payer le frais douanier. Est-ce qu'un produit qui vient de Goma vient d'un autre pays? Est-ce que c'est un pays étranger? Il y a un problème. Le M23 dit, à partir de ce moment, tout étranger qui vient dans le territoire sous contrôle du M23 doit avoir le visa approuvé par le M23. Madame Kelly, nous sommes entre Djouba et Khartoum avant le départ du Soudan du Sud. Les signes ne se contredisent pas. C'était ça la somalisation et ce que vous appelez bien la balkanisation. Il n'y a pas d'autre procédé. Sauf que à Kinshasa, on est toujours membre de l'EAC. Et à ces East Africa Community, vous avez trois grands États, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, qui nous font la guerre. Je reviens à un aspect technique. Le communiqué conjoint que Madame Soumino, la première ministre de l'État congolais, qui a représenté le président Félix Tshisekedi, je crois, en Tanzanie. C'était un communiqué conjoint EAC-SADC, a parlé du dialogue, de la neutralisation de FDLR. L'État congolais a signé. L'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Luanda, auprès de Joao Lorenzo, ils ont signé la neutralisation de FDLR et le processus du dialogue. Vous prenez la résolution 2773 des Nations Unies, conjointement votée à l'unanimité de tous les membres, de toutes les grandes puissances, les cinq puissances mondiales. Ils parlent aussi du dialogue. Doha parle du dialogue. Sauf qu'à Kinshasa, on dit « je ne dialogue pas avec ces gens », alors qu'ils sont dans ces mêmes processus. J'ouvre une parenthèse. Je la ferme immédiatement en une seconde. Joseph Kabila a été condamné hier ou avant-hier. Si c'est lui le patron de AFCM 23, on le condamne. Il est le patron de M23 avec qui on parle à Doha. Donc on parle avec Kabila quand même à Doha, par ses collaborateurs interposés. Nous sommes dans un contexte où, soit le président Tshisekedi dans une attitude de radicalisation, de vouloir montrer l'ASM 23 comme un mouvement soutenu par l'étranger, ce n'est pas faux, parce que tout mouvement militaire de cette nature doit avoir une base arrière, ça je n'en disconviens pas. Mais est-ce que le président Tshisekedi lui-même n'en tire pas bénéfice? Parce qu'il maintient l'état de siège, un gouffre financier, parce que on ne contrôle pas comment l'argent sort, parce que c'est toujours en procédure d'urgence. Mais en même temps aussi, à un moment donné, le président posera la question, je veux parler avec le F23, au moment où il va constater que c'est son mandat qui va vers la fin et donc il va obtenir la prolongation de son mandat, un petit peu comme Joseph Kabila l'avait fait. Donc nous sommes dans un contexte où le président Tshisekedi, qui vient de l'UDPS et fils d'Étienne Tshisekedi, très habitué à des méandres de négociations, est entré clairement, de mon point de vue, de profiter du M23.
Merci.
Sauf que, à un moment donné, je termine par là en une seconde, peut-être que le moment venu, les rapports de force va se renverser et que le M23 posera des conditions, non pour des négociations, mais surtout pour le départ du président Félix Tshisekedi. Et ce sera très dangereux pour la RDC.
Merci. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kapi, et ainsi que la chaîne YouTube de Radio Kapi, Miss Talon Chabani. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour récupérer nos deux villes par la force. Bienvenue, Mouzouri. Depuis Ouvira, il est difficile de respecter les cessez-le-feu du fait qu'il n'y a aucune contrainte imposée par la communauté internationale sur le terrain. Gaston Galamouloumé, depuis la ville de Kananga, le régime a refusé de négocier avec le M23. Ils doivent s'assumer en cas de non-cessez-le-feu. Marc-Lim Libanga Vungbo, depuis Kisangani, vous pensez que la violence au nord et sud qui vous freine le développement et met en danger la santé des populations? Il est urgent que les autorités agissent, écoutent les victimes et impliquent les jeunes formés pour construire une paix durable. Nkarbanza Likasi, dans le Haut-Katanga, cette persistance est due à la mauvaise politique et mauvaise gestion de cette situation d'insécurité. Vous êtes très très nombreux. Merci beaucoup. On va directement aller sur le standard pour écouter ces auditeurs qui sont aussi en ligne, qui veulent réagir. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika.
Satya Sangwa depuis Kalemie dans la province du Tanganyika. Nous considérons que les mécanismes mis en place pour restaurer la paix et l'autorité de l'État dans l'est de la RDC sont largement insuffisants. Les initiatives diplomatiques, bien qu'importantes, semblent déconnectées des réalités du terrain où la violence perdure. La déclaration de Bintou Keïta souligne bien sûr un écart problématique entre promesses de paix et la situation réelle, ce qui démontre l'inefficacité des pourparlers actuels. Nous estimons qu'il est impératif que le gouvernement prenne des mesures concrètes et crédibles pour assurer la sécurité des populations et restaurer la confiance dans l'État. Sans action tangible, la paix restera une promesse vide, d'où le dialogue entre Congolais et la solution pour mettre fin à cette situation, car ce régime a totalement démontré ses limites.
Johnson Ishara, dialogue entre Congolais, pas l'émission, dialogue entre Congolais, discussion entre Congolais pour trouver la solution à cette situation d'insécurité, des violences dans la partie est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez, très brièvement?
Alors, ce que j'en pense, c'est que je pense que le peuple congolais en général, dans l'histoire de l'humanité, dans des situations, des complexités comme celles que notre pays est en train de traverser, il y a que le peuple qui finit par éclairer par rapport à sa destinée, ce qu'il veut exactement de ce que le pays doit être. Parce que, comme je l'ai démontré à l'entame de cette émission, tout est parti sur des mensonges. Et dans ces mensonges, nous avons perdu beaucoup de compatriotes à Goma, à Masisi, à Rutshuru, n'en parlons pas, parce que dans le village, là, on tue et il n'y a personne pour faire des statistiques. Mais nous sommes alertés parce que depuis plusieurs années, nous avons intervenu dans toutes ces zones-là. À Calais, on avait même bombardé des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. Il n'y avait pas de statistiques claires sur ça et peu de gens n'ont parlé sur la toile. Donc à l'intérieur, dans ces deux provinces, nous perdons des compatriotes tous les jours parce que nous partons sur...
La situation humanitaire est très préoccupante.
Est très, très préoccupante. Dans ces cas d'espèce, moi je pense que ce qui peut être... comme une voie pacifique des règlements de ces conflits, je pense qu'il faudrait que Kinshasa, dans son ensemble, c'est-à-dire le pouvoir en place, accepte d'amorcer une voie que la CENCO et les CC sont en train de demander. Je l'avais encore dit et je l'ai redit. Parce que si cette voie est amorcée, je pense qu'il y a maintenant ces mensonges qui nous ont précédés, selon balayé. Et encore, ça me crée quand même un autre doute, parce que je ne comprends pas avec un niveau très élevé d'acharnement que le porte-parole du gouvernement apporte chaque fois qu'ils sont en face de la délégation de l'ECC et de la CENCO. Nous avons été avec le porte-parole du gouvernement dans la grande salle de Boboto, la salle culturelle. Il apporte le même rejet que le gouvernement ne paie pas. Parce que s'il est fait, ça serait amorcer une voie que le Congo ne saura jamais résoudre. Quelle est cette voie? La CENCO était là, était pour expliquer qu'il faut qu'on amorce un nouveau contrat social du pays parce que nous sommes en train de sombrer. Tous mes co-débatteurs venaient de peindre également ces tableaux sombres de l'évolution de la situation. Ils ont parlé que, je pense que ce qui, maintenant là qu'on s'est concentré sur la situation du 1-23, il y a maintenant une situation des ADEF. C'est tous les jours qu'on est en train d'endeuiller, on est en train de brûler des gens dans les Grands Nord. Et en même temps, les chefs d'état-major de l'Ouganda étaient récits par le président de la République. Et il a pris la décision. J'ai écouté mon aîné et j'ai rentré faire ce qu'il m'a demandé de faire. Sans savoir de quoi il s'agissait, mais au moins, comme il excelle en faisant des scandales dans le tweet, il a encore dit... Nous n'hésiterons pas à marcher sur les deux villes du Grand Nord et à Bounia pour sécuriser les compatriotes. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça ce qui plane. Donc, dans cette situation, moi j'encouragerais les compatriotes, les Congolais, parce qu'aujourd'hui, je reste convaincu. Madame Kelly, prenez-moi sur le mot, je reste convaincu que l'état de siège qui était décrété dès le départ, avant la résurgence du 1-23, n'était pas un fait de hasard. La ville de Goma, c'était une ville de la résistance. L'activisme, les défenseurs de droits humains, la société civile, un peuple qui était engagé à veiller sur son unité, sur sa grandeur, a été carrément affaibli. Et aujourd'hui, on voit que malgré l'état dans lequel le pays est en train de sombrer, à Kinshasa, c'est déjà hier, il y a eu également des scandales au niveau dans la commune de Mongafula, parce qu'il y a eu des tirs. Et que ça soit également dans d'autres provinces, on sent comme si nous sommes en train d'aller dans une situation qui serait très dangereuse où on dit, malgré tout ce qui se passe, observons. Non, le peuple ne devrait pas observer. Le peuple devrait s'élever parce qu'en réalité, conformément à l'article 5 de la Constitution, il faut dénoncer ce qui ne va pas, il faut encourager ce qui va. Et quand vous dénoncez ce qui ne va pas, ça ne fait pas de vous des inciviques, ça fait de vous des civiques à part entière. Et la crainte ici maintenant, c'est le sort, comme l'a dit le dernier co-débatteur, c'est le sort maintenant de ses compatriotes qui sont dans ces zones. Madame Kelly, vous devez savoir que économiquement, il y a des choses qui sont en train de se passer. On peut se taper, voilà, qu'à Kinshasa, ça va, à Lubumbashi, ça va, mais à Goma, à Bukavu, ça ne va pas. Déjà, économiquement, vous pouvez vous imaginer, déjà dans une ville où il n'y a pas de banque, dans une ville où il n'y a aucune subvention, dans une ville où on assiste maintenant à une surtaxation de ceux qui contrôlent la ville, déjà des boutiques chaque mois, qui n'ont pas même des clients, il faut payer des taxes. Et si vous ne payez pas, vous êtes sanctionné. Ils sont même allés très loin. Des contrats parcellaires sont en train d'être vérifiés par un pouvoir qui vient de s'installer. Et ils ont même instauré une autre procédure pour apprécier si cette parcelle vous appartient ou pas. Nous sommes dans quoi finalement? Nous sommes dans quoi? Parce que si nous avons des éléments phares que moi j'ai dit, nous devrions les réciter chaque fois qu'on se réveille. Le premier, c'est notre devise. Quand on parle de la paix, nous sommes où par rapport à l'état des lieux de la paix? Quand nous parlons de la justice, voilà, nous sommes dans une période où la justice elle-même a arrêté son ministre.
Merci.
Nous parlons également du travail. Nous en sommes où? Et le deuxième élément, maintenant, c'est les discours du chef de l'État. Les discours d'investiture, qui est souvent les serments du président de la République. Son contenu devrait nous faire réfléchir et nous dire... Si alors nous sommes en train de vivre les désastres aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que peuple lui?
Merci, on va prendre le deuxième auditeur très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Cet auditeur est à Bukavu, au sud de Kivu.
Maître Fazil Mubole, depuis la ville de Bukavu. Nous vivons aujourd'hui le moment le plus difficile de l'histoire de notre vie. Nous sommes sans espoir. Nous sommes déjà à se mature, nous peuple, pour essayer de voir qui s'occupe de notre malheur. Que ça soit le gouvernement de Kinshasa, que ça soit ceux qui nous dirigent présentement, nous savons déjà lesquels s'occupent de notre malheur. Mais nous voulons que nos frères nous attendent, ceux qui prétendent qu'ils sont entrés de chercher notre bonheur. Nous voulons leur dire ceci. Nous souffrons, nous posons la question au nom de ce peuple qui endure une telle calamité. N'est-il pas possible de vous mettre autour d'une table et de parler entre vous, Congolais, pour que jamais ce malheur ne revienne plus?
Alors, vous venez de suivre là, c'est quand même poignant, hein. Cet auditeur de Bukavu qui interpelle les Congolais, les autorités. Brève réaction, Maître Dounia.
Oui, je voudrais réagir en disant
soyez concis, s'il vous plaît. Hein.
La FC M23 a conquis Bunagana, Rutshuru, Goma, Bukavu, jusqu'au confins de Kamituga. Je crois que le gouvernement n'a pas d'autre voie, selon moi, que de négocier pour sauver les peuples qui souffrent atrocement. Vous savez que sans banque, sans aéroport, sans sortie interprovinciale, vous comprenez que la population est asphyxiée. Je crois que le gouvernement aussi, on attendait que, à part ces remaniements, on espérait que le président allait nommer des ministres qui sont engagés dans le processus de paix, au lieu de choisir des ministres qui sont, disons, pointis, qui sont préparés pour faire des déclarations toujours de guerre. Et pourtant, le président ne se départit pas de l'accord de Doha, il ne refuse pas l'accord de Washington. Alors, vouloir faire la guerre, c'est faire une chose et son contraire. Et c'est là, je crois, les met en porte-faux. Pourtant, il avait la possibilité, soit de voir parmi les ministres, ceux qui sont engagés pour la paix. Nous pensons aussi que du côté du M23, s'il y a des négociations qui sont lancées, ce ne sera pas nécessaire de continuer à recruter. Et pourtant, on est sur la voie de paix. Parce qu'on voit aussi que nos députés, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour encourager le processus de paix en tenant compte que leurs électeurs se trouvent dans une situation inextricable, dans une situation difficile. Ils devaient être des bons conseillers du chef de l'État pour l'amener
à conduire vers la paix, qui sauve la population, qui mette la situation, une bonne situation pour la population qui souffre aujourd'hui, sans situation, sans banque, sans aéroport. Je crois que on va voir que le processus de Doha et de Washington sont loin des réalités sur le terrain et n'ont pas tenu compte des agendas des partis. Je me demande si du côté gouvernemental ils étaient préparés à accepter cela en acceptant disons l'accord des principes de Doha et de Qatar qui paraissent insuffisants, qui ne peuvent pas aider à résoudre le problème. Peut-être le gouvernement espérait que cet accord permettait, c'est pas de supprimer les AFC-M23, alors que je crois que du côté américain, on attendait qu'il y ait une solution entre les belligérants, entre les partis. Et c'est ça qui crée beaucoup de soucis ici. Est-ce que le gouvernement est intéressé de la situation que traverse la population de l'Est? Est-ce que le gouvernement veut la paix ou le gouvernement veut la guerre? Et si le gouvernement a la force pour la guerre, qu'il démontre. Mais si le gouvernement est limité, pourquoi ne pas opter, ne pas choisir la paix, ne pas choisir le processus de paix? Parce que on voit que aujourd'hui ceux qui sont alignés au niveau du gouvernement et même peu de députés parlent de la paix. On crée peut-être que celui qui parle de la paix sera mal vu et ce sera considéré comme proche peut-être de l'AFC-M23 ou sera considéré comme proche du Rwanda. Mais je crois que les ministres responsables devraient être des bons conseillers du chef de l'État pour accepter ce qu'il a choisi, l'accepter les procédures de Doha, les procédures de Washington. Merci. Ça signifie accepter la paix et avoir des ministres qui sont pour la paix, qui s'intéressent à la situation de la population de l'Est du Congo.
Merci,
les députés qui sont
Doumbia.
Engagés, qui font des déclarations, qui montrent qu'ils veulent soutenir les chefs de l'État aller vers la paix.
Alors, merci beaucoup, Maître Dounia. Merci à Maître Justin Mourouti, président du Parlement des jeunes de Goma, qui pense que la gestion de la guerre en RDC est gérée avec légèreté. L'avenir de la nation est en péril. Les politiques sont aux intérêts. Voilà, je comprends pas très bien ce qu'il a dit, mais l'essentiel du message a été lu. On va prendre ce dernier auditeur de Bounia très rapidement.
Allons, Stépiance, mes voeux, je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo suscite une profonde inquiétude car les efforts pour instaurer la paix semblent inefficaces face à la persistance des violences. La promesse de rétablissement de l'autorité et de la sécurité se heurte à une réalité alarmante où les affrontements continuent de ravager les communautés. Les disputes entre les différentes factions aggravent cette instabilité, laissant les populations dans l'incertitude et la paix. Il est crucial de réévaluer les mécanismes à place et d'agir rapidement pour éviter une détérioration encore plus grave de la situation humanitaire et sécuritaire.
Timothée Tchaoumbo Soutcha, réévaluer les mécanismes en place et agir rapidement afin d'éviter une détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire. Voilà ce que propose cet auditeur. Comment vous réagissez? Vraiment, soyez concis, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, mais l'auditeur de Bounia est dans un contexte local. Il vit la situation, les atrocités qu'il vit. Mais la réalité, c'est que la réalité locale est soumise à des solutions locales. Sauf que dans le contexte de Bounia, Beni, Butembo, comme Nord et Sud Kivu, dans la globalité, repose dans la solution globale nationale par la volonté du président de la République, mais aussi dans la résolution sous-régionale entre l'État congolais, le Rwanda et l'Ouganda. C'est cela la vérité. Or, nous avons d'abord un OVNI, qui l'alliance militaire entre l'Ouganda et la RDC, alors que l'Ouganda travaille pour le Rwanda, donne des informations au M23, mais l'État congolais est toujours en alliance militaire avec l'Ouganda. Alors maintenant, il n'y aura pas de solution parce que des fractions, la persistance de toutes ces fractions resteront. C'est parce que tout naturellement, ce sont des trésors qui appartiennent à des multinationales, à des compradors qui ont installé leur comptoir au Burundi, au Rwanda, en Ouganda. Et le contexte du fait que l'État congolais maintient sa coopération militaire avec l'Ouganda fait que cette situation perdure. Il faut le comprendre de cette nature. Mais je termine par là en une minute. Vous savez, tout le processus, j'avais énuméré Doha, Washington, EAC, etc. Même à l'interne, la CENCO, SCC, il faut aller même plus loin. Le CENSA de M. Joseph Olenga Nkoy parle du dialogue. Parce que lorsqu'on prend Joseph Kabila, Katumbi, Nanga, les autres, on les rappelle sur la table de négociation dans un esprit de conciliation, de pardon. Madame Kelly, la paix est demain. Que ce soit là, moi, je ne fustige pas la coopération congolo-américaine. Nous devons nous ouvrir au monde. Nous avons des minerais. Nous n'avons pas de matériel. Nous n'avons pas de ressources. On a combien d'ouvriers qui savent commander une machine qui va aller dans les 2 kilomètres sous-sol ou dans les 600 mètres ceci. Non, nous devons coopérer. Le problème, c'est que le contexte, les agendas politiques font que on relègue le besoin du peuple, comme nos compatriotes qui pleurent au sud de Nord Kivu, au second degré. Et donc, c'est cela le problème. Donc, maintenant, ce qui va arriver, c'est l'expression des rapports de force. Le M23 vient de sortir de son école militaire, 7000 militaires, et suréquipés par Israël, par les États-Unis et la France. En même temps, à Kinshasa, le président Tshisekedi a des structures militaires privées qui viennent d'Israël, et qui sont aussi de la Roumanie, des États-Unis, etc. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut pas minimiser les nombres de morts pour aller au dialogue? Parce que si on dialoguait déjà avec le M23 à la prise de Bunagana, on aurait évité tous les dégâts économiques, financiers, humains que nous avons connus dans la prise de Bukavu et de Goma.
Merci.
Est-ce que vous savez que la RDC a perdu plus de 4 milliards de dollars en équipement que le M23 a récupéré à Goma? Est-ce que vous le savez? C'est les Congolais qui ont perdu de l'argent parce que Tshisekedi n'a pas voulu comprendre que la prise de Bunagana était l'asphyxie de Goma et la prise de Bukavu par la suite.
Merci, ouais. Timothée Tchaumbo-Soutcha. Très peu de mots, hein, votre conclusion, Johnson Ishara. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Oui, Madame Kelly, merci aux co-débatteurs pour cet échange. Merci à tous les auditeurs. Mais je pense que ma conclusion, ça serait une phrase que je vais m'adresser à tous les compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu. En réalité, je pense que depuis que le 21e siècle a commencé, notre pays n'avait jamais connu une situation comme celle-ci, une humiliation de cette nature. Je pense que la dernière date des 98 avec la chute de Goma avec l'RCD, et nous devrions être courageux. Goma, Bukavu, aux environs, nous devrions être courageux pour que nous puissions nous dire plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que nous avons assisté aux choses affreuses qu'on ne souhaiterait jamais que nos enfants puissent encore y voir. Je pense également que les autorités politiques, opposition comme majorité, on devrait se dépasser, parce que l'histoire des hommes est plus petite que l'histoire de la nation. Et là, nous sommes dans un contexte de l'histoire de notre nation. Parce que si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe, nous risquerons un jour de nous réveiller ou qu'on ne parle plus le Congo dans sa grandeur. Et je reste optimiste, croyant que ce pays va rester un indivisible.
Merci. Maître Joseph Dounia, votre conclusion.
Oui, je voudrais conclure en demandant à ce qu'il y ait des mécanismes de contraintes à tous les belligérants sur l'application du cessez-le-feu, que ça ne reste pas seulement sur le papier ou que ça ne reste pas des déclarations, mais que ça soit suivi, appliqué de façon contraignante par toutes les parties. Je demande aussi, je recommande à ce qu'on rouvre par ces mécanismes de mise en œuvre du cessez-le-feu, qu'on ouvre l'aéroport de Goma, de Bukavu et les banques. En troisième lieu, que les présidents puissent remanier le gouvernement congolais pour avoir des ministres qui sont engagés pour la paix, pas des ministres bellicistes ou des ministres radicalistes qui sont pour la guerre. Je vous remercie.
Merci, maître Joseph Dounia, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Restez branchés sur la fréquence de la paix.